Bonjour à tous, bienvenue sur Sésame. Et ben aujourd'hui, on va accueillir Christine-Laure Amiac. Bonjour Christine. Ah, je
Bonjour
suis.
Anthony.
Merci. Merci de prendre un peu de temps, de ton temps qui est assez précieux. Je voulais partager avec toi des choses, discuter et faire une petite interview sur qui tu es, ce que tu proposes dans tes stages et aussi en tant que thérapeute. Ça te va? Alors, justement, alors. On avait discuté ensemble de ta médiumnité qui t'est arrivée quand tu étais tout jeune. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Oui.
Mais je ne savais pas véritablement à quoi ça correspondait. Ça s'est réveillé vraiment des années plus tard, dans les années 80.
Tu avais quel âge?
J'avais 30 ans.
30 ans, d'accord.
J'avais 30 ans. Il y a eu des premiers flashs qui me sont apparus en pleine nuit. Donc j'ai eu des visions de visages qui s'allumaient comme ça face à moi dans la chambre.
Ouais.
J'ai eu très peur, hein, je t'avouerai franchement qu'au début, c'est pas évident,
Et tu m'étonnes.
surtout quand on s'y attend pas, quoi.
Ouais.
Et donc, j'ai plutôt eu une réaction à l'époque de fermeture, en me disant non, 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 je suis pas prête, foutez-moi la paix, quoi, je suis pas prête.
Ah ouais, carrément, d'accord.
Ouais, parce que ça a insisté. Bon, il y avait ces visions, et puis après, pendant plusieurs jours après, j'entendais des petits bruits. Comme si ça faisait pipi, tu vois, comme s'il y avait quelqu'un qui parlait, mais c'était inaudible, comme un petit bruit de souris à côté de moi. Et
Incroyable.
ça me faisait flipper, quoi. J'avais vraiment le sentiment que c'était pas le moment, que j'étais pas prête à faire le pas.
Alors comment ça se passe dans ces cas-là? Tu leur dis stop?
J'ai demandé, oui, j'ai demandé. Ça a mis du temps, ça a mis un bon moment quand même, une bonne quinzaine de jours facile. Et je faisais des prières et je disais non, non, je vous en prie, je suis pas prête. Je foutais-moi la paix, je suis pas prête. On verra ça plus tard, mais je suis pas prête.
Incroyable. Et à quel moment tu as été. Est-ce que finalement, est-ce qu'on est prêt à tout ça quand ça t'arrive? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui nous expliquent que du jour au lendemain, ça leur arrivait, c'était pas prévu. Est-ce que comment on se prépare à ça finalement?
On le sent. Moi, je sentais depuis l'enfance que j'avais quelque chose qui était sous-jacent, si tu veux. Je me souviens que quand j'étais gamine, je faisais vraiment très très attention à mes mains. J'avais l'impression d'avoir une puissance indéfinissable dans mes mains. Et quand les enfants se disputent dans une cour de récréation, tu sais, on chahute et puis on se pousse, hein, et ben moi je mettais mes mains, je retenais mes mains. J'avais l'impression que si moi je donnais un coup, ça allait être très fort. Donc
D'accord.
je sentais quelque chose d'un peu bizarre, si tu veux, qui était hors norme un peu.
Est-ce que tes parents avaient aussi ce ou une grand-mère dans est-ce que dans ta famille tu avais ce
Alors,
genre de
il y avait
don?
une grand-mère, mais mes parents n'en ont jamais parlé.
D'accord.
Mes parents n'en ont jamais parlé. Je me souviens que quand j'étais enfant, je disais à ma mère que je voyais des petits points devant moi, multicolores. Et ça faisait comme un feu d'artifice de petits points multicolores au moment de m'endormir. Et elle me disait, allez, il est temps de dormir, il est temps de dormir. J'ai dit, maman, il y a des petits points dans ma figure. Et elle me disait, mets ton oreiller sur ta tête. Je mettais l'oreiller, mais avec l'oreiller, je les voyais quand même, quoi.
C'est
Tu vois?
incroyable.
Mais ça, elle ne pouvait pas le comprendre puisqu'elle ne le savait pas elle-même.
Mais tu as eu des parents quand même assez ouverts parce que bon nombre de
Oui.
parents pourraient dire, écoute, on va voir un médecin, un psychiatre, est-ce que tu fais pas de la schizophrénie, tu dis que tu entends des voix, ou tu vois, ou des petits points, c'est quoi tu vois, elle est où la
Oui.
limite finalement entre quelqu'un qui entend des voix, comme une sorte de schizophrénie, et quelqu'un qui a un canal ouvert?
On a jusqu'à, je crois que c'est jusqu'à 7 ans, on est encore en connexion totale entre l'ancien monde et le monde nouveau, si tu veux, le monde sur lequel on vient d'atterrir. On a une conscience d'enfant, de nos capacités. Moi, j'ai écrit des choses en tant qu'enfant. J'ai écrit un texte, je devais avoir 10 ou 12 ans. Je parlais d'une cité sous l'eau, tu vois. Et puis, comme un fait exprès, au-dessous des eaux, une cité d'or ensevelie. Tu vois? Et j'avais 10 ans.
Et
Et personne n'avait parlé de ça.
tu veux dire que ça peut être soit ton imaginaire, ou alors tu voudrais dire que
Ben non,
dans ta
c'était spontané.
conscience, pardon?
C'était spontané. Tu sais, les enfants, je pense qu'ils ont une conscience spontanée. Ils vont dire, capte et il sait. Il est dans une sorte de connaissance directe.
D'accord. Donc à 30 ans, à quel moment tu décides de dire OK, allez?
Oui, en définitive, ce qui s'est passé, c'est que quelques années après, 2 ans après, là on était en 84, en 86, je suis allée voir un médium qui avait marqué médium spirituel, mm-hmm. et pour voir un petit peu ce qui pouvait se passer dans ma vie. Et puis, comme toutes les questions qu'on peut poser à un médium, hein, amour, santé, beauté. Et puis il me dit non, c'est pas pour ça que vous êtes venu me voir. Il me dit, je vous écoute. Et là, j'étais à blanc. Puis d'un seul coup, j'ai dit, ah oui, effectivement, il m'est arrivé quelque chose il y a 1 ou 2 ans. Il me dit, je vous écoute. Et là, je lui ai raconté. Et quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, il m'a dit, de toute façon, voilà, vous êtes médium. Que vous vouliez ou non, vous y passerez. Alors, ça peut être maintenant, comme ça peut être dans 6 mois, comme ça peut être dans 6 ans ou 10 ans. Ça n'a aucune importance. De toute façon, c'est sur votre chemin, vous y passerez.
D'accord.
Voilà. Donc.
Et au final, quelques années plus tard, quel moment tu as dit tu as fait ce métier?
Il m'a laissé partir avec ça en me disant que s'il voulait, il pouvait m'aider. Si moi je voulais, il pouvait m'aider. Et puis je l'ai rappelé un peu de temps après. Et il était prof de yoga aussi. Et il travaillait beaucoup avec un maître indien. Mm-hmm. Et il était professeur de yoga. Et donc, je l'ai rappelé après, on s'est vu. Et là, il m'a fait une séance de magnétisme. Et c'était la seule chose qu'il a faite. Il m'a dit, OK, je vous accueille. Je suis retournée. Il m'a dit, voilà, recevez ce que les maîtres vous donnent.
D'accord.
Il m'a magnétisée. Mm-hmm. Et pas un mot de plus, je suis sortie avec ça. Et à partir de ce moment-là, il y a tout qui a commencé à bouger. D'ailleurs, j'ai commencé à voir, je voyais le soleil changer de couleur, je commençais à sentir mes mains. Enfin, il y a plein de trucs qui se sont réveillés, quoi. Donc, je lui en ai parlé. Mmh. Et puis, après, à partir de ce moment-là, il m'a accompagnée. Et là, je me suis engagée dans une démarche personnelle de compréhension de l'énergie. Et j'ai fait 8 ans d'école de yoga, pratique yoga de l'énergie.
Ouais.
Et puis, au moment où on se connaissait, donc on avait sympathisé, puisque c'était devenu mon prof de yoga, lui, il avait son maître indien avec lequel il travaillait. Il était venu travailler avec moi il y a un moment donné, et puis on avait partagé un bureau ensemble. Il avait mis la photo de son maître, et son maître indien, c'était Muktananda. Et moi, je ne le connaissais pas du tout, je ne l'avais jamais vu, mais il me dit, je peux mettre la photo, je ne sais pas si tu veux. Donc, il me met la photo de Muktananda sur une commode. Et puis, on partageait un bureau ensemble à ce moment-là. Et puis, le matin, ben, j'arrosais les fleurs et j'arrosais les fleurs de Muktananda. Sauf que ce jour-là, eh ben, j'ai reçu ce qu'on appelle Shaktipat, c'est-à-dire un éveil énergétique spontané.
D'accord. Comment ça se manifeste?
En clair, vous allez rigoler, mais tu prends un jus du bas vers le haut.
D'accord. D'accord. Et ça t'a permis de faire quoi alors après?
Heureusement, cet ami était là, puisqu'on partageait le bureau. Il me dit, qu'est-ce qui t'arrive? Ben, je dis, écoute, je ne sais pas. Il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai juste arrosé les fleurs. Ben, il me dit, ben, il t'a remercié.
Incroyable ça.
Je dis, mais c'est quoi? Il me dit, il t'a donné Shaktipat. Et Shaktipat, c'est un éveil énergétique spontané, ce qui fait qu'à l'époque, heureusement que j'étais... Tu sais, je crois qu'on a en soi la capacité d'accueillir les choses. Et quand c'est le moment, c'est le moment. Mmh. Et j'étais dans une... cette fois-ci, je me suis dit, non, maintenant j'accueille. Maintenant j'y vais, je vais jusqu'au bout. Et en fait, ben, ça a tout déclenché. Donc la voyance, la vision, tout, c'est comme si tout s'allumait en même temps. Tu passes d'un truc à l'autre. D'abord, ça a été la voyance. Après, ça a été le magnétisme. Et c'est resté des années au niveau du magnétisme, avec une capacité de perception au niveau du canal. Donc le canal, si tu veux, la différence que je peux faire entre le canal et le médium c'est un intermédiaire, qui peut contacter bon, différents plans. C'est pas évident à expliquer, mais pour moi le canal c'est un tuyau. million, quoi. Tu vois?
Oui.
Il est neutre. Il reçoit, il transmet. Il reçoit, il transmet.
Donc toi, c'est comme ça que tu fonctionnes. Tu reçois, tu transmets l'information.
Alors, oui, c'est comme ça que je fonctionne quand ça veut fonctionner. Parce que c'est pas moi qui décide.
D'accord. Donc quelqu'un vient te voir.
Si tu veux, avec un médium qui peut-être va connecter, va prendre la photo d'une personne décédée ou va prendre la photo de. Bah même d'un animal, hein, parce qu'au niveau de l'animal, c'est un peu comme ça que j'ai fonctionné quand même. Mais si tu, j'ai utilisé cette médiumnité. Mais le médium traditionnel dont on entend parler, souvent, c'est quelqu'un qui capte une présence d'après une image, qui va pouvoir te parler de ta grand-mère, de tout ça, tu vois, et qui va aller chercher l'information.
Mmh.
Alors que, c'est ma façon, ça n'engage que moi.
Hein, bien sûr.
De percevoir les choses. Pour moi, le canal, c'est un lien tertiel qui est en ouverture et tu te mets au service de la lumière. Pour moi, c'est comme ça que je le vis, le canal.
C'est-à-dire
que c'est pas moi qui décide, mais il peut m'arriver de recevoir des informations qui viennent d'autres plans. Et là, je le sens, ça descend. C'est comme si j'étais enveloppée par un voile de lumière, un peu, je veux dire, parce que ça fait des petits frissons, tu vois.
Mmh.
Et d'un seul coup, je me sens enveloppée et ça parle. Et pour moi, ça passe beaucoup par la voix, parce que je suis en auditif. Alors, ça peut passer par l'écriture automatique et par la voix.
D'accord. Donc, tout ça, tu en as fait un métier ? On est d'accord ?
Alors, pas en temps. Je peux pas dire que j'ai fait un métier de canal, parce que je me définis plus aujourd'hui comme thérapeute de toute façon, puisque à la suite de tout ça, j'ai quand même passé près de 20 ans, 30 ans à pratiquer le magnétisme, à faire des soins énergétiques. J'ai eu une formation en sophrologie, parce que, j'avais besoin de passer aussi dans des milieux où c'était un peu plus structuré.
Bien sûr.
Donc j'ai fait de la sophro. Et après, j'ai eu une formation en magnésthésie avec Thierry Tournebis, qui est dans la région d'Ordogne et qui est le fondateur de la magnésthésie.
D'accord. Alors,
et là, ça m'a permis de passer en milieu soignant, tu vois, à l'époque.
Ah, super. Aujourd'hui, beaucoup d'expérience, tu fais des stages.
Oui.
J'ai vu sur Sésame. Alors, tu peux nous parler un peu de tes stages avec les animaux?
Alors, les stages, ce qui s'est passé, si tu veux, c'est qu'il y a maintenant une vingtaine, dans les années 2000 à peu près, les animaux sont venus me chercher. C'est-à-dire que je m'occupais des humains, je faisais des soins aux humains,
ouais.
Et à un moment donné, je me suis sentie appelée par le monde animal, et j'ai eu des animaux qui se sont présentés. J'étais en méditation, parce que la méditation, c'est quand même une base, et j'étais sur mon lit en méditation, et j'ai quatre animaux guides qui se sont présentés et qui m'ont donné chacun des directives, si tu veux. Et après, je me suis retrouvée à la communication animale sans l'avoir cherchée.
D'accord.
Et donc, j'ai compris comment ça fonctionnait, puisque moi, je passais en écriture automatique. Donc, j'ai passé des tas de textes en écriture automatique. Donc, avec les animaux, les gens m'envoyaient la photo de leur animal. Et je voyais la photo de l'animal. Écriture automatique.
D'accord.
Maintenant, au niveau des... Comme tu me posais la question par rapport au stage.
Oui.
Oui, alors, si tu veux, par rapport au stage, j'essaye de... faire comprendre, si tu veux, d'une certaine façon, c'est qu'on peut aller au-delà de la communication. Bien sûr qu'on va apprendre à communiquer avec le monde animal, parce qu'on oublie de considérer l'animal comme un être à part entière qui est capable d'une conscience, qui a une conscience à son niveau, une conscience de groupe, et une façon de fonctionner aussi avec l'humain dans son individualité aussi. Tout ça, ça dépend des animaux, ça dépend de leur évolution, mais un animal est capable d'entendre ce que tu dis, de comprendre, de capter ta pensée, d'être malade parce que tu vas te poser la question de savoir qu'est-ce que tu vas faire de lui, est-ce que tu le laisses ou pas. Il entend, il comprend, il capte. Et donc, si tu veux, à travers les stages, on va utiliser des outils qui permettent de faire le vide à l'intérieur, d'être dans un état de vide à l'intérieur. Et c'est dans cet état de vide qu'on peut recevoir des informations, qu'on peut devenir l'intermédiaire. ou l'animal et l'humain.
Donc dans tes stages de communication, donc expérimenter la communication subtile avec le monde animal, tu apprends aux gens à mieux communiquer avec leurs animaux, c'est-à-dire d'entendre ce qu'ils veulent dire, c'est ça?
Oui, d'entendre et de comprendre le rôle de l'animal aussi. Parce que les animaux, on n'a pas un animal par hasard dans sa vie. Un animal, il vient répondre à une partie de nous qui est en demande.
D'accord.
La relation avec l'animal, elle est déjà créée avant même que la rencontre soit faite.
C'est-à-dire?
D'ailleurs, je ne sais pas si tu dois connaître Anne Gévaudan, qui a écrit Le peuple animal, avec Anne et,
oui.
Et Damien, à l'époque, avait écrit un bouquin sur le peuple animal, et oui. Expliquait aussi. Là, l'animal sait très bien où il va, comment il fonctionne, et pourquoi il rencontre telle ou telle personne. C'est parce qu'au niveau du lien, le lien est déjà créé avant que la rencontre soit faite.
D'accord.
Et ce qu'on va apprendre dans un stage, c'est à s'ouvrir, à écouter, à s'ouvrir, à entendre l'animal dans une autre dimension. Pas uniquement le assis debout couché ou qu'est-ce que tu veux manger.
Et tout le monde peut recevoir ces informations? Est-ce qu'il faut quand même avoir un don ou une capacité à...
Moi, je ne considère pas qu'il faille un don pour cela. Parce qu'on a tous des capacités en nous. On a tous 5 sens. Mm. Et on a... Chez ces 5 sens, il y a une relation subtile pour chacun d'entre eux.
D'accord.
L'auditif, quand je t'entends, permet une vision plus subtile où là, je suis en clair audience et je peux capter quelque chose qui vient de l'intérieur ou qui est une autre forme de communication. Le visuel, je te vois, je vois une fleur, je vois mon bureau, mais je peux aussi voir par la voyance parce que mon troisième œil va être ouvert et que je vais capter des images ou recevoir des images qui vont être des informations. Le goût, l'odorat, le toucher, ce sont aussi des sens qui ont leur octave subtile. On peut très bien être face à un animal et ressentir chez soi une zone de tension, une zone de douleur qui va venir nous parler, qui va nous permettre d'entrer en communication avec l'animal. On peut avoir un goût dans la bouche. Un jour, il m'est arrivé d'avoir un goût de métal dans la bouche en communiquant avec un chien. Et il s'avérait que la personne qui était propriétaire de ce chien était enfermée dans un sous-marin.
C'est-à-dire?
Et moi, j'avais la relation avec le métal.
D'accord.
Tu vois? C'était très intéressant, je ne veux pas, parce que là, on n'a pas le temps de,
bien sûr.
Pas de donner plein d'exemples de communication. Mais là, si tu veux, c'en était un qui était vraiment très flagrant. Parce que j'avais eu l'information que cette personne devait faire attention à elle, et je sentais ce goût de métal que j'avais dans la bouche. Et quand je l'ai demandé à la personne, à sa maman qui m'avait appelé, il s'est avéré qu'elle me dit, ma fille travaille dans du métal puisqu'elle est dans un sous-marin.
Incroyable. Ah oui, c'est incroyable. Donc toi, tes stages, tu les fais donc, il y a plusieurs stages, j'ai vu plusieurs dates, il y a au mois de juin, au mois de juillet. Ça se passe où, tes stages donc?
Alors, pour l'instant, mes stages se passent en Dordogne, parce qu'on est dans un environnement qui est riche, qui est vraiment magnifique.
Oui.
On est au pays du Périgord, je suis dans le Périgord noir, donc c'est ce qu'on appelle le pays de l'homme, et je trouve que c'est un nom qui lui va bien. Et puis, à savoir que, pour moi, ce qui est important aussi, c'est qu'on prenne conscience que quand on fait cette démarche pour aller vers la communication avec le monde animal, eh bien, c'est qu'il y a une partie de nous qui, elle, est en demande d'aller vers quelque chose de plus profond en nous, vers une ouverture de conscience plus grande. Parce que si tu es capable de communiquer avec un animal, ça veut dire que tu es capable de communiquer avec un autre plan de vie que le tien.
Donc ça ouvre les champs de possibilités.
Et ça ouvre le champ des possibles. Parce qu'aujourd'hui, ce que les animaux nous demandent, et pourquoi on est interpellé par les animaux comme ça depuis une vingtaine d'années maintenant. Moi, j'étais dans les premières à faire de la communication animale en France. Ça venait surtout des États-Unis et du Canada. Les gens n'avaient pas entendu parler de communication animale au début. Mais pourquoi ? parce qu'on est dans un monde d'éveil, parce qu'on nous demande de nous ouvrir,
Et oui.
de nous ouvrir à ce qui nous entoure, de nous ouvrir à tous les plans de vie qui nous entourent. Si on peut communiquer avec un animal, on peut communiquer avec une plante,
Bien
on
sûr.
Peut communiquer avec un minéral. Et plus on va ouvrir nos capacités de perception là-dedans, plus on va se rendre compte qu'on est dans un monde d'unité quelque part. Et que tout est en interaction. C'est un peu l'effet papillon, tu sais, tu cueilles une fleur et ça éteint une étoile. Il y a quelqu'un qui a dit ça un jour, je trouvais ça très beau. Donc si tu veux, dans les stages, on va travailler la communication. Parce que les gens sont en demande de savoir communiquer avec un animal.
Et donc, dans tes stages, est-ce que les gens viennent avec leur chien, leur chat, ou ils viennent sans? Ah, voilà.
Non, ils viennent avec la photo de leur animal. Parce qu'on va, si tu veux, une photo, c'est un support, et une photo, c'est une énergie. Donc, comme on est dans un monde d'énergie, tout est énergie, et je suis bien placée pour l'avoir expérimenté. Eh bien, la photo, c'est l'énergie, c'est la vibration d'une présence. Donc, si tu te mets en connexion avec ça, et que tu fais appel à l'intérieur de toi, au monde du silence, parce que les maîtres disent, on peut vous donner toutes les réponses que vous voulez, laissez-nous simplement la place de vous répondre. Et la plus grosse difficulté, c'est quoi? C'est d'être au calme dans sa tête.
Et ça, c'est lâcher le mental, c'est un peu compliqué pour tout le monde.
Lâcher prise au mental, d'accord? Donc on travaille le lâcher prise, on expérimente la communication avec les photos, et puis on va s'amuser aussi parce qu'il faut que ce soit convivial. C'est pas la vie, c'est une joie, donc il faut partager aussi. Donc en général, si tu veux, dans le stage de 2 jours, on fait une partie théorique où là je vais donner les bases de la communication animale, les bases du positionnement, comment lâcher prise, comment arriver à être dans un état de vide au niveau du mental. Tu vois, plein de choses comme ça qui vont être des outils que les personnes pourront expérimenter et puis pratiquer après chez elles. Et le deuxième jour, souvent, si le temps le permet, on va en contact direct d'animaux. Ça veut dire qu'on peut expérimenter le contact avec la photo, ou alors, pour d'autres, ça peut être plus facile en voyant directement l'animal.
D'accord.
Les deux sont possibles. Ça, c'est pour le stage de 2 jours.
D'accord, super.
Alors, comme tu me demandais par rapport à l'autre, le stage de 4 jours, c'est un stage dans lequel on va approfondir en tenant compte de l'aspect thérapeutique de la relation entre l'humain et l'animal.
Donc, c'est plus poussé, tu dirais?
C'est plus profond, je dirais, dans le sens où... On va communiquer, hein. On va avoir les 2 premiers jours où on va vraiment apprendre la communication animale, mais on va aussi tenir compte de l'aspect thérapeutique, c'est-à-dire que si tu as un animal à côté de toi qui est malade ou qui a une problématique de vie, eh bien, tu verras que très souvent, il y a une résonance sur le plan de l'humain. Et ça, à 80%, 90%, c'est toujours en interaction. Parce que l'animal, il est connecté au plan émotionnel de l'humain. Donc, pour ceux qui ont des chats, des chiens, ou des animaux domestiques, comme on dit domestiques, hein, c'est ceux qui sont le plus proches de vous, regardez comment ils fonctionnent. Quand vous êtes triste, quand vous n'êtes pas bien, l'animal, il le sent.
C'est sûr, c'est vrai. Il vient se poser. Ouais.
Bouger.
On dit aussi que...
On dit le chat, il vient se poser sur le clavier. Il y en a qui ont certainement vu ça.
Bien sûr.
Parce qu'il nous interpelle. Et il vient nous chercher dans nos retranchements. Tu vois?
Bien sûr.
J'ai vu le cas de personnes, par exemple, qui n'auraient pas été voir un psychologue parce qu'elles avaient une problématique et qui se sont trouvées surprises qu'à travers la photo de leur animal... on arrive à détecter leur état émotionnel et leur problématique de vie. Tu vois?
Très bien.
Et du coup, c'est l'animal qui devient thérapeute. C'est l'animal qui va aider à prendre conscience des choses. Et dans l'autre sens, si la relation s'établit dans ce sens-là, humain-animal dans un aspect thérapeutique, si tu soignes l'humain, tu soignes l'animal. Et problématique est liée à l'humain, c'est comme si tu mettais un baume sur quelque chose qui va ressurgir.
Bien sûr.
Alors que si tu fais attention à la problématique commune des deux, tu peux aider, tu peux soigner les deux. Et j'utilise des élixirs aussi, des élixirs floraux que je donne aux deux.
D'accord.
Ça, on en parlera pendant le stage. Parce que humain, animal, quand il n'y a pas d'alcool dedans, on peut donner à un animal un élixir floral. Ils sont très très sensibles à l'homéopathie, aux élixirs floraux, au magnétisme. Ils sont très très réceptifs. Donc si on soigne l'un, on soigne l'autre automatiquement.
C'est très bien.
Ça me fait un peu penser, tu sais, à la relation parent-enfant, la mère et l'enfant. Pour soigner l'enfant, il faut soigner la mère.
Exactement.
Exactement.
Est-ce qu'avec les humains, tu fais encore des choses en tant que thérapeute? Est-ce qu'on peut te consulter par téléphone? Parce que les gens qui nous écoutent sont sur toute la France. Est-ce qu'il y a des choses que tu proposes? On n'est pas obligé de venir dans le département 24. Je suppose que par téléphone, tu fais des choses. Comment on peut te solliciter en tant qu'humain?
Écoute, je propose un accompagnement par téléphone. Alors, dans cet accompagnement, eh bien, je vais d'abord voir quelle est la problématique de la personne, qu'est-ce qu'elle a envie qu'on travaille ensemble. Mmh. Et puis, bah, après, il y a plusieurs outils qui peuvent aider, qui peuvent servir de guidance. Ça peut m'arriver d'utiliser des tarots, par exemple, pour avoir des mots-clés ou pour avoir des choses comme ça. Comme il peut arriver aussi que si des guides de la personne veulent intervenir, bah, ils interviennent. Hein. Moi, je suis juste là pour transmettre.
Oui, c'est sûr.
Et c'est pas moi qui vais le demander, tu vois.
D'accord.
Et puis j'aime beaucoup travailler aussi avec les anges gardiens. Ils sont révélateurs de parties de nous. Moi, dans ce domaine-là aussi. Donc, c'est assez profond d'ailleurs le travail avec les anges gardiens. On y croit ou on n'y croit pas. Mais si tu veux, tout support, quel qu'il soit, devient un outil pour pouvoir travailler et grandir. Tu vois?
Très bien.
Toi aussi, tu veux.
Eh oui, je sais. Mais là, je me mets en tant que... Je t'écoute, tu vois, je ne me mets pas en tant que thérapeute justement pour ne pas intervenir. Et tu as bien sûr, tu as tout à fait raison.
Et bah, si je te mets une cuillère sur la table, que je te demande comment tu trouves cette cuillère, 10 personnes vont trouver la cuillère différente et on pourra aller vers un point différent chez chacune.
Exactement.
C'est pareil. C'est pareil. Donc, c'est un accompagnement par téléphone. On peut le faire avec Skype, tu vois. Donc, si la personne a envie qu'on se voit, je peux guider face à cette problématique et donner des outils aussi. Il m'arrive de pratiquer la méditation, la relaxation, la respiration, tu vois. Quand on est en Skype, on se voit. La voix peut être aussi une guidance. Et bah, tu es avec l'autre aussi, non ? Il n'y a pas de limite.
Oui.
L'énergie, elle passe et elle va là où elle doit aller.
Alors, je vais rappeler ton numéro de téléphone, ça, je peux le donner ?
Oui, bien sûr, avec plaisir.
C'est le 06 78 80 93 43 pour te joindre et pour avoir plus de renseignements. Je voudrais te poser une dernière question. Oui. Donc là, on a parlé de tes stages, on a parlé comment c'est venu ta médiumité, ce que tu peux aussi apporter aujourd'hui à l'être humain et aussi aux animaux. Et puis aujourd'hui, comme je fais avec tout le monde, on va parler un petit peu de la conjoncture aujourd'hui et donner un peu ton avis, ton ressenti, quelle position il faut prendre. Il y a beaucoup de thérapeutes qui savent ce qu'il faut faire et puis d'autres qui sont toujours à l'écoute, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, les énergies. Est-ce que tu as des choses que tu peux nous donner ?
Nous, on a vraiment le sentiment en Dordogne d'être dans un espace privilégié. Mmh. Parce qu'on est un peu dans une bulle. Et moi, pour tous ceux qui ne sont pas dans des espaces privilégiés comme la campagne, le bord de mer ou autres, qui sont dans les villes, qui sont dans des appartements, qui n'ont peut-être pas toujours la possibilité d'aller se promener dans une forêt ou dans un champ ou ailleurs, eh bien, c'est de retourner vers soi. C'est d'aller chercher à l'intérieur de soi ce calme intérieur. Mmh. Parce que par la méditation, on se reconnecte à soi. Et quand on se reconnecte à soi, eh bien, on se reconnecte à notre source. Et notre source intérieure, elle est reliée, pour moi, à ce que j'appelle notre pure conscience. Et notre pure conscience est reliée à la source de toute vie. Et pour moi, l'expérience rivalité, le conflit, les colères, tout ça. Ça fait partie du jeu qu'on a choisi de vivre ici. Parce qu'on est tous des petits acteurs sur le théâtre de la vie aujourd'hui.
Et, oui.
Et moi, j'ai vraiment le sentiment que malgré tout ce qui se passe, j'ai envie d'inviter à penser tout simplement que au-delà de la forme, il y a un être à part entière qui lui sait très bien qu'il est déjà relié. Et à partir du moment où on arrive à se calmer, à se poser, à respirer profondément, à retourner à l'intérieur de soi, eh bien, on ouvre une porte à une autre dimension en soi. Et cette autre dimension en soi, elle nous relie à l'unité. Mmh. Et malgré toute cette dualité, on est obligé de passer par ce conflit aujourd'hui.
Et oui.
On est obligé de passer par ça pour l'évolution de l'humanité.
Et oui.
C'est grave, je sais que ça peut paraître hallucinant pour certaines personnes, mais tu sais, il faut savoir...
S'il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de changement. C'est dans les conflits qu'on change. Par exemple, cette pénurie, ces augmentations de tarifs alimentaires prouvent bien qu'aujourd'hui, par exemple en France, ben on ne produisait plus, on importait. Donc aujourd'hui, on va devoir changer. On va peut-être consommer moins de viande, puisqu'on aura moins d'eau, parce que la viande va coûter très cher. Donc les gens vont automatiquement se retourner vers des choses simples. Hein, quand on dit qu'on peut manger des feuilles, des arbres, et ça c'est gratuit, eh ben, on va modifier. Il y a des nouveaux métiers qui arrivent, et on ne mangera plus la viande comme avant, on ne mangera pas comme des pâtes, etc. On changera notre alimentation. Et tout ça est lié, je suis d'accord avec toi.
Quand on prend le temps de méditer, au début, vous allez peut-être méditer, allez, 5 minutes, 10 minutes, et puis après, ça va devenir une habitude, un besoin. Et après, il y a ce qu'on appelle la méditation active, c'est-à-dire que tu peux marcher et être conscient de tes pas et être en méditation dans le rythme.
Et oui, toujours tu cette fameuse pleine conscience où aujourd'hui, d'être dans l'instant présent.
Voilà. Et ça, c'est des stages que je pense qu'à d'ici la fin de l'année, je vais mettre en place un stage dans ce sens-là aussi.
Et ça, c'est très bien. C'est très bien parce que c'est vrai que quand on vit à la campagne, moi le premier, ben, tu vois, la télévision, elle ne tourne pas. Donc, on peut être dans son jardin et chacun ses passions. Mais j'imagine en centre-ville, où la télévision tourne 24 heures sur 24 et que tu vois les guerres, les ceci, le Covid, etc. L'être humain,
il... Les télévisions.
Et oui, c'est se retrouver.
Tu vois, ça, c'est vraiment... s'il y a un conseil, arrêtez d'écouter les médias qui disent... Je vais peut-être me mettre des gens à dos, mais on voit tout le temps la même chose.
Et oui, bah oui.
Le Covid, donc, ça fait 2 ans qu'on nous bassine avec le Covid. En attendant, ils nous préparent autre chose par derrière. Ils sont en train de mettre la 5G. Ils sont en train de bousiller l'humanité actuellement.
Je suis d'accord.
Donc, quelque part, là où on peut se préserver, c'est en restant dans la en étant dans la conscience. On n'est pas ça. On n'est pas ça. On est en train de vivre sur Terre. On expérimente ça. OK ? On est libre de rentrer dedans ou pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se positionner.
Bien sûr.
Et poser un acte juste en conscience. Si tu poses un acte, tu es en conscience dedans. Tu sais que, voilà, tu as voté. OK, j'ai voté parce que, hop, j'étais en accord avec ça. Si, combien de personnes ont voté parce qu'ils votaient contre ou ils votaient pour ou, tu vois, les gens, même à ce niveau-là, il y a eu des choses qui n'étaient pas en accord avec l'identité de l'être. Parce que si on va plus loin que ça, à la limite, on n'aurait même pas besoin de rentrer dans ce jeu-là.
Tout à fait.
Donc, si, puisqu'on le fait, qu'on le fasse en conscience, qu'on se dise, OK, je suis dans ce monde, je participe. Parce que, voilà, je suis incarné ici et j'ai envie de donner ma voix à ceci, à cela. Ça peut être un vote comme ça peut être autre chose, une action humanitaire, une association, n'importe autre. Tu vois ? Mais au moins être conscient de, on le fait, mais je ne suis pas ça, quoi. Je veux bien aider, j'aide, parce que ça fait partie de mon rôle sur Terre, mais je ne vais pas rentrer complètement dedans, dans le sens où pas me sentir meurtrie de la souffrance de l'autre. C'est dur, voilà. Hein, ce que je dis. Hein.
Non, mais c'est très bien. Et ça fait du bien aussi, ceux qui vont t'écouter, donc ce petit interview, et qui vont justement... une prise de conscience. Alors, moi, je dis deux choses comme toi. Je dis, et n'oubliez pas de lire et de lire. Parce ouais. que la lecture ouais. est une ouverture aussi qui nous pose à réfléchir peut-être à autre chose, à notre monde. Et j'insiste aussi sur les stages. Les stages, oui, ça coûte des fois un peu d'argent parce que les gens, il faut bien qu'ils vivent. Mais les stages permettent sûrement de rencontrer d'autres personnes qui disent, tiens, toi, tu n'as pas Internet, comment ça se fait? Et toi, tu as l'électricité, tu as coupé, mais comment tu as fait? Etc, etc. Et de voir qu'il y a un autre monde qui existe, et etc, etc. C'est, c'est super.
Tout à fait. Et vraiment, les consciences, elles sont en train de bouger.
Bien sûr.
Et qui peut-être n'osent pas le dire.
Pas avec leurs mots, mais qui font leur chemin. Ouais, et ça, c'est très
voilà,
bien.
Qui font le chemin à leur rythme. Et tout ce qui compte, c'est le premier pas sur le chemin.
Bon, très bien.
Ils viennent tout seuls.
Christine, je te remercie pour cette interview très intéressante qui nous a permis aussi, et vous tous qui nous écoutez, c'est toujours intéressant quand vous avez... des dons qui vous viennent comme ça, ou un canal qui vous arrive et vous êtes un peu en panique, bah sachez que vous n'êtes pas le ou la seule. Et donc, cette interview puisse aussi permettre aux gens de dire, tiens, ce qui lui arrive m'est arrivé, mais je ne sais pas trop quoi en faire. Et donc, que cette interview, qu'on ait envie aussi de voir tes stages, de voir ta fiche praticien sur www.cesam-am.fr. Et là, on tout retrouve. Et puis, il y aura d'autres stages encore de toi. Et je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour le temps, parce que tu es une mine d'or et on pourrait laisser comme ça le temps couler. Et puis à un moment donné, les gens. Et puis tu as une voix soporifique aussi, tu sais. Donc on peut mettre les oreillettes et dire ah ben oui, tiens, je vais méditer avec Christine Laure et puis avec Anthony Crombet. Allez, je vais écouter les deux. Je me fais bronzer un peu au soleil. Et puis c'est fort intéressant. Elle me parle des animaux, etc. Il ne manquerait plus que je parle d'hypnose. Et puis là, la personne, elle fait un grand voyage.
En tout cas, je te remercie, Anthony. C'est vraiment très, très gentil de ta part et puis bah, de participer, de partager tout ça. Parce que je crois qu'on nous demande... Si, j'ai un petit mot à rajouter.
Allez, vas-y.
On nous demande vraiment d'être dans le partage et d'oser se rencontrer, faire des fêtes entre copains, se retrouver, tu vois. Il y a vraiment une énergie où on a envie d'être dans la joie.
Et c'est ça, exactement.
Et c'est ça qu'il faut préserver.
C'est super.
Donc, rassemblez-vous, bisous. Ensemble. Et puis, bah, j'espère qu'on aura l'occasion.
Oui, je viens en Dordogne bientôt en septembre pour voir Anne.
Voilà, tu vois. Ok, bah, écoute.
Merci. Merci, Christine. Merci.